Dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au milieu de nous, comme il l'a promis. Et ce qui m'encourage dans ce cantique que nous avons chanté, c'est que nous avons chanté et nous avons en même temps confessé de tout notre cœur ce que Jésus dit, « Oh, je vous aime presque tous. Oh, je vous aime tous. » Et parce qu'il nous aime tous, il veut que nous entendions sa voix. Et quand il veut que nous entendions sa voix, c'est parce qu'il désire nous sauver tous, sans exception. Et dans l'Ancienne Alliance, il est dit, lorsque Israël est sorti du pays de l'esclavage, du pays de l'Égypte, il est dit dans l'Écriture, il ne resta pas un seul ongle en arrière. Dieu veut nous sauver tous. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Et nous lisons pour ce matin le psaume 23. Pour ceux qui le savent par cœur, vous pouvez le réciter, même à haute voix si vous voulez, pendant que je le lis. Je vais essayer de le dire par cœur aussi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le titre de notre méditation, L'Éternel est mon berger, et le thème que nous partageons en plusieurs fois, c'est le voyage du pèlerin. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de cette série que nous avons commencée il y a à peu près, à fin juillet, si je ne me trompe pas. La deuxième partie du psaume 23. Et j'avais expliqué ou j'avais informé la dernière fois que je m'appuie sur le psaume 23 comme si c'était un canevas pour développer les éléments qui sont dans ce psaume. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, etc., etc. Nous avons rappelé la dernière fois que David, dans l'introduction de ce psaume remarquable, proclame avec force que l'Éternel est son berger. Il sous-entend par là qu'il est devenu la brebis du Seigneur qui, dans sa grâce infinie, a instauré une nouvelle relation avec lui, une relation spirituelle et éternelle. De plus, par rapport à cette grâce qui lui a été faite, celle d'être la brebis du Seigneur, du divin bon berger, il est conscient et convaincu qu'il ne manquera de rien, absolument de rien, spirituellement parlant, afin d'arriver au but, c'est-à-dire dans la bergerie céleste pour toujours. En d'autres termes, David commence par affirmer tout ce que l'Éternel, son berger, a fait et fait encore pour lui. Il témoigne ainsi de la grandeur et de la puissance de son Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Puis il déclare à son Dieu la pleine confiance qu'il place en lui. En effet, il connaît si bien son Seigneur qu'il ne doute pas un seul instant de sa parole ni de ses promesses. Et ce que j'ai déjà dit à Jésus, à mon Seigneur, à mon divin berger, Seigneur Jésus, je place toute ma confiance en toi et je ne doute pas un seul instant ni de ta parole ni de tes promesses. Faisons-le. C'est tellement édifiant et encourageant. C'est pourquoi David parle avec foi, une foi ferme, inébranlable, à son bon berger, confessant librement et ouvertement tout ce qu'il expérimente réellement et constamment dans sa dépendance. Et qu'est-ce qu'il expérimente ? Le repos parfait. Le repos parfait. La paix infinie. Le renouvellement permanent, la direction et la protection divine, la communion d'amour et de joie, et enfin la bénédiction, une bénédiction de félicité et de grâce éternelle. On chante dans un cantique, repos parfait. Dans les chants de victoire, il y a un cantique où il est parlé, sous tes ailes, repos parfait. Sous les ailes du Seigneur, repos parfait. Quand l'aigle tournoie au-dessus du poulailler et que la poule ouvre ses ailes, c'est l'image que prend l'Écriture. Les petits poussins accourent sous les ailes et ils viennent se réfugier sous les ailes de leur mère. Et que disent-ils ? Repos parfait. Repos parfait. L'amour parfait bannit la crainte. Si quelqu'un est encore dans la crainte, dit l'Écriture, l'amour n'est pas parfait en lui. Alors, il faudrait encore expliquer de quelle crainte il s'agit, bien sûr. Quelle est la certitude de la brebis du divin berger qui, dans sa relation intime et profonde avec son Dieu, et dont le cœur est plein d'espérance et d'assurance quant aux promesses de l'Éternel, peut dire sans douter, sans hésiter, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et ceci nous amène à notre deuxième mot-clé, la restauration. Le premier mot-clé, c'était, si vous vous en souvenez, la relation. L'Éternel est mon berger, c'est la relation. Avec la conséquence, je ne manquerai de rien. Maintenant, nous allons aborder le thème de la restauration de l'âme. Deuxième mot-clé donc, restauration. Il y en a 6 en tout, avec des sous-points, mais pas pour aujourd'hui. Sinon, on serait encore là pendant au moins une semaine. Si vous avez pris votre pique-nique, ça peut aller. Remarquons tout d'abord, comme nous l'avons déjà indiqué, qu'il ne s'agit pas ici d'une restauration dans le sens de l'alimentation, dans le sens d'alimentation du corps, ni d'une restauration dans le sens d'une réparation ou d'une réfection quelconque, mais de la restauration spirituelle de l'âme. Il y a bien une alimentation et une rénovation, mais cette restauration est réalisée par le repos dans les verts pâturages et auprès des eaux paisibles. Et l'accent est mis sur le repos et la paix de l'âme. Deux choses essentielles au salut. Le repos et la paix. Ce repos et cette paix sont frères et sœurs. Ils sont la conséquence directe de la nouvelle relation que le bon berger a établie avec sa brebis qui était perdue, brebis qu'il a cherché et retrouvé. Dieu le Sauveur a ramené David, brebis égarée sur les chemins du péché et de la mort, dans la bergerie céleste, en vertu du sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu qui viendra et qui ôtera le péché du monde. C'était déjà prophétisé dans les 2 premières pages de la Bible, dans Genèse 3. Et David le savait. Par conséquent, comme tous les croyants d'autrefois, David a mis sa confiance en Dieu. Et à ce propos, il n'a pas été déçu. Dans les différents psaumes qu'il a composés, il démontre clairement que sa foi reposait sur Dieu et sur ses promesses. David donc savait que son âme était sauvée, qu'il pouvait être dans le repos à ce sujet, et que Dieu était en paix avec lui. que toute inimitié avait été ôtée par la grâce divine à cause de l'immense bonté de Dieu qui veut sauver tous ceux qui se confient en lui. Et je vous indique juste quelques psaumes, si vous arrivez à les retenir, ils sont faciles à retenir. 32, 51, les psaumes de repentance, le 103, « Mon âme bénit l'Éternel », c'est connu. Et puis, relisez surtout le psaume 110, où David savait déjà que Jésus-Christ serait le souverain sacrificateur qui viendrait sauver le monde. Il n'avait donc plus rien à craindre. C'est pourquoi il pourra conclure son cantique en disant « J'habiterai dans la maison de l'Éternel juste pour le temps de mes vacances, pour 15 jours, pour toujours. » En ce qui nous concerne, nous voulons préciser ces choses. Première précision, premier sous-point, le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le verset 2, alinéa A. Première partie du verset 2, si vous voulez. Le repos dans les verts pâturages, c'est le repos de Dieu. C'est le repos de la foi. Et ce repos de la foi est produit dans le cœur de l'homme par la parole de Dieu, symbolisée ici par les verts pâturages. Selon qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, comme Claude nous l'a expliqué tout à l'heure. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Et vous avez les références de Deutéronome 8, 3 et Matthieu 4, 4. Mais ce repos, qu'est-il au juste? Pourquoi avons-nous besoin de ce repos? Comment le trouve-t-on ou comment le reçoit-on? Que nous apporte-t-il ce repos? Pour quelle raison et dans quel but nous est-il donné? Ce repos est-il bien réel et éternel? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous quelques éléments de ce repos par rapport à Israël, comme on vient de l'entendre dans le psaume 95. Merci à Samson qui a été conduit par le Seigneur. Et tu sais, la fin du psaume 95 m'a encouragé à continuer dans mon message, parce que j'avais envie de tout changer. Je me disais, c'est rien du tout. Et quand tu as lu ce texte, c'était comme un clin d'œil du Seigneur pour me dire, dis-le quand même, ce message. En effet, nous dit Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, que tout ce qui est arrivé au peuple de Dieu dans l'ancienne alliance a été écrit pour notre instruction. Tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans l'ancienne alliance a été écrit pour mon instruction, pour ton instruction. 1 Corinthiens 10, verset 11. Et par rapport à cela, j'aimerais faire trois remarques en trois mots-clés. Trois remarques résumé par rapport à trois mots-clés. Première remarque, premier mot-clé, constatation. En lisant l'histoire d'Israël, une réalité importante s'est progressivement imposée à mon esprit. Elle pourrait se résumer ainsi. Il est plus facile de sortir d'Égypte que d'entrer en Canaan. C'est du patois de Canaan, me direz-vous. Soit, mais il n'en demeure pas moins que l'exemple tragique d'Israël est là pour nous le démontrer. En effet, un jour a suffi aux descendants de Jacob pour sortir du pays de l'Égypte, de l'esclavage, tandis qu'il leur faudra errer pendant 40 ans dans un désert aride avant de pouvoir entrer dans le pays promis. Encore que ceux-là seuls, qui à l'exemple de Josué et de Caleb, crurent Dieu et obéirent à ses commandements, y entrèrent. Alors que tous ceux qui furent incrédules périrent dans le désert. Cela ne signifie pas que nous devons attendre 40 ans avant de pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Mais l'Écriture veut nous apprendre ici que l'entrée dans le pays promis, c'est-à-dire dans le repos de Dieu, n'est accordée qu'à la foi. Et l'Épître aux Hébreux, que nous citerons tout à l'heure, le montrera clairement. Deuxième résumé, deuxième mot-clé, comparaison. Et si nous, les chrétiens d'aujourd'hui, plutôt que de jeter la pierre à Israël, nous acceptions une comparaison avec le peuple de Dieu d'autrefois, ne retrouverions-nous pas le même phénomène? Il deviendrait alors évident qu'aujourd'hui comme hier, l'on peut faire profession de foi tout en restant incrédule. Et cette incrédulité consiste à contester la nécessité de traverser le Jourdain tout en se révoltant contre le commandement divin de conquérir le pays promis. Pourquoi? Parce que justement, s'emparer de Canaan, c'est-à-dire de la promesse, n'est pas de tout repos. En tout cas pas dans le sens où l'on se l'imagine souvent. Car les géants ennemis intimident les incroyants, et la perspective du bon combat de la foi les détourne de Dieu et de sa parole. Leur cœur s'égare alors dans le désert de l'incrédulité, et ils meurent dans ce lieu sans jamais avoir atteint le repos. Tous les espions, les 10, sauf Josué et Caleb, ils ont dit « Oh là 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 là, mon Dieu, ces géants !» Et conquérir ce pays, ah, miséricorde insondable, on ne va jamais y arriver. Et si Massa, comme on l'a lu dans le psaume 95, contestation, Massa qui veut dire contestation, et Meriba qui veut dire révolte, sont mentionnés dans ce contexte, ce n'est certainement pas un hasard. Ces deux épisodes significatifs et instructifs à plusieurs égards, l'un au début, l'autre à la fin de l'Exode, serviront de référence aux propos de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ainsi que d'arguments objectifs et décisifs pour démontrer la nécessité de la foi, la traversée du Jourdain et de l'obéissance, conquête du pays promis, si l'homme perdu et repentant veut hériter du salut. Sinon, pas de salut. Une chose encore que l'Écriture veut relever ici. Si le fait de contester la parole de Moïse était répréhensible et punissable par lapidation, que sera-ce pour celui qui conteste la parole du Fils et qui se révolte contre son saint commandement? Repentez-vous et convertissez-vous, sinon vous périrez tous également, comme ceux qui sont morts sous les décombres de la tour de Siloé. Quelle sera la punition? L'exclusion du repos de Dieu, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Quand Dieu doit dire une chose pareille sur une personne, je vous dis, c'est terrible. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit ouvertement. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Troisième mot-clé, compromission. À ce stade de notre réflexion, il n'est peut-être pas inutile de nous rappeler qu'un piège extrêmement dangereux nous guette tous, moi le premier. C'est la tentation subtile et perfide du compromis. Et quel est-il? Il consiste à faire le premier pas, traverser le Jourdain et entrer dans le pays promis et à refuser le deuxième pas, conquête du pays. Autrement dit, on veut bien recevoir le don du salut, mais on refuse le devoir de la sanctification. On refuse l'obéissance de la foi, alors que Paul a bien dit que sa mission, c'était d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. En un mot, on veut la vie sans passer par la mort. On veut la victoire sans combat. La couronne sans la croix. C'est impossible. C'est absolument impossible. Dans ce cas, même une traversée simulée du Jourdain est une injure au Dieu trois fois saint. En effet, Dieu ne donne pas son salut à celui qui n'est pas vraiment disposé à croire correctement selon l'Écriture et à obéir fidèlement. Croire, obéir, chantons-nous dans un cantique, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, ou si vous voulez, du vrai repos. Vrai repos, paix parfaite sous les ailes du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et il ajoute, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, empressons-nous d'entrer. Et il nous fait comprendre que nous devons nous empresser d'entrer avant qu'il ne soit trop tard. Car si nous contestons la parole de Dieu, si nous ne voulons pas nous repentir, ni nous convertir, si nous ne voulons pas mener le bon combat de la foi, marcher dans la sainteté, dans la sanctification tous les jours de notre vie, un jour il sera trop tard et nous arriverons à un point de non-retour, comme Ésaü. Ésaü a demandé à son père, « Y a-t-il pas encore une bénédiction pour moi ?» Et son père a dit, non, je n'en ai plus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'était trop tard. Il s'est repenti avec larmes, mais ses larmes n'ont eu aucun effet. Parce qu'il a renoncé à son droit d'aînesse. Il s'est moqué de la parole de Dieu. On ne se moque pas impunément de Dieu. Quand une pluie tombe régulièrement sur un champ, régulièrement, longtemps, 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 et que ce champ ne finit que par produire des épines et des chardons, que fait-on? On y met le feu. Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, elle est cette... Mais si ce champ commence à produire de bons fruits, des bons grains, alors ce champ participe à la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons chanté « Oh, je vous aime tous, je veux vous sauver tous. Venez avant qu'il ne soit trop tard. » Il n'y a pas de mot plus terrible que « trop tard ». Ces deux mots, « trop tard », c'est l'enfer. J'ai presque réussi à prendre le train, mais c'était trop tard. Quelqu'un dira, mais qui peut entrer dans ce repos? Si la réponse était si évidente, pourquoi le Saint-Esprit, dans cet Épître aux Hébreux, insiste pareillement sur l'avertissement? Et pourquoi prend-il tant de soin à encadrer ces multiples mises en garde par de si puissants encouragements? Justement, parce qu'il est plus facile de sortir d'Égypte que d'entrer en Canaan. Aujourd'hui, dans le monde évangélique en général, on dit « Venez, 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 venez à Jésus, tout ira bien. » Et j'aimerais le dire en français courant, « Mon œil. » Si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Un point, un trait. Je viens de lire un article où quelqu'un disait « Jean-Baptiste a prêché la repentance. » Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Et celui qui a écrit cet article posait la question, pourquoi aujourd'hui ne prêche-t-on plus la repentance? J'aimerais vous dire, relisez cette épître aux Hébreux, l'une des plus édifiantes du Nouveau Testament. Certes, nul autre épître n'avertit aussi solennellement, mais nul autre épître n'encourage aussi puissamment, conformément à la personne et à l'œuvre de rédemption de Jésus, le Fils. Mais revenons à notre première question. Ce repos, qu'est-il ? Quand ce sera l'heure, ne vous en faites pas, je m'arrêterai, puisqu'on a une suite. Ce repos, qu'est-il ? Qu'est-ce que c'est que ce repos ? C'est le repos de Dieu. C'est un repos de sabbat. En effet, après avoir créé l'univers et tout ce qu'il contient en 6 jours, Dieu se reposa de son œuvre le 7e jour. Et remarquez bien, mes chers amis, ce 7e jour n'a ni soir ni matin. C'est pourquoi le repos de sabbat que Dieu nous offre est un repos parfait et éternel. Ainsi, et l'auteur de notre belle épître aux Hébreux nous indique ceci. De même que Dieu s'est reposé de ses œuvres, de même le pécheur repentant qui entre dans ce repos de sabbat se repose des siennes. De quelles œuvres exactement ? Des œuvres vaines, des œuvres mortes, c'est-à-dire de toutes les œuvres humaines, futiles et inutiles, par lesquelles l'homme pécheur cherche à mériter le salut, cherche à entrer dans le repos de Dieu sans jamais y parvenir. Évidemment. Et pourquoi ? Parce que la source de ce repos est en Dieu. C'est lui seul qui en est l'initiateur. Jésus, son Fils, en sera le réalisateur. C'est lui qui accomplira ce repos sur la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui communiquera ce repos au cœur du croyant par le moyen de la parole de Dieu. Il est donc manifeste, pour qui veut bien tendre l'oreille aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu, que ce repos de sabbat n'est pas en l'homme. Il ne peut ni le produire, ni le fabriquer d'une quelconque manière, ni l'acquérir par ses propres moyens, d'aucune façon et à aucun moment, si religieux, si intelligent et si puissant soit-il. Et Jésus confirmera, heureusement que Jésus confirme. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ah, et écoutez bien la suite. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et qu'est-ce qu'on a chanté ? Oui, je vous aime tous, je veux vous sauver tous. Et puis, la suite, à partir du verset 28 de Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du travail. Et je vous donnerai du travail, je vous chargerai comme les Israélites dans le pays d'Égypte, avec double travail chaque jour. Voilà, bien fait pour vous. Non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, merci Seigneur Jésus. Mince, il y a encore quelque chose qui suit. On s'arrête souvent, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Puis on ferme la Bible. Merci Seigneur pour ce repos que tu veux nous donner. Mais on oublie la suite. Il faut toujours lire le contexte. L'explication d'un texte est toujours dans le contexte si on ne veut pas en faire un prétexte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce repos donc est un repos de l'âme pour tous ceux qui reçoivent les instructions du Seigneur et qui sont prêts à prendre sur eux le joug et le fardeau de Jésus. Alors, je résume encore deux éléments et puis je partage encore quelques mots sur le troisième élément et puis on y reviendra si Dieu veut et si nous vivons une prochaine fois. Pourquoi ou pour quelle raison entrer dans ce repos? Ben, tout simplement parce que Dieu l'a préparé. Si une épouse, une maman, une mère de famille prépare un repas, hein, c'est presque la même chose, repos, repas, pour sa famille, et puis qu'à midi moins cinq, le mari téléphone, oh, je suis pas là, à midi, les enfants téléphonent, oh, je suis chez mon copain. Et puis cela, des jours et des jours, des semaines et des semaines. Que va dire la mère de famille? Mais j'en ai marre, je leur prépare plus rien. Et si Dieu nous a préparé un repos, nous aurions tort de ne pas l'accepter. Nous aurions vraiment tort. Deuxièmement, pourquoi, pour quelle raison ce repos? Parce que Dieu nous y invite. Selon la parole de Jésus que nous venons de citer, l'appel de Dieu par l'intermédiaire de Jésus est clair. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dépêchez-vous de déguerpir. Je vous ai assez vu, hors de ma vue. Mais non, Jésus ne parle pas comme ça. Quand bien même il y a dans l'Écriture des autres passages où il peut agir autrement. Mais que dit Jésus? Jusqu'au jour de son retour, que dit-il? Aussi longtemps que la porte est ouverte, aussi longtemps que la grâce est accessible, qu'est-ce que Jésus dit? Oui, venez, je vous en supplie, je vous en prie, je vous aime, je veux vous sauver tous. Venez, s'il vous plaît, venez à moi. N'ayez pas peur, je suis doux et humble de cœur. Et mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Dieu nous y invite. Et puis, troisième élément que je veux développer très brièvement avant de terminer. Pourquoi, pour quelle raison ce repos, entrer dans ce repos? Parce que nous en avons, mais oui, parce que nous en avons besoin. Notre salut en dépend. Et quelles sont les instructions du Seigneur quand il dit « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions, prenez. » Il dit « Venez, car je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions, prenez. Venez, recevez, prenez. » Pas seulement « Venez. » Venez, 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 allez, hop, 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 hop. Venez, recevez mes instructions. Et quelles sont ces instructions? Je répète encore une fois. Les instructions du Seigneur, quand il dit « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur », il dit « Je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis venu vous apporter la paix. Je suis venu vous offrir le repos parfait sous les ailes du Seigneur. Recevez mes instructions. Et si vous voulez cette paix parfaite, si vous voulez ce repos éternel, venez sous mes ailes. Recevez mes instructions. » Et quelles sont-elles les instructions du Seigneur? Je le répète encore une fois. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Jésus a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Les apôtres ont prêché la repentance et l'apôtre Paul à Athènes, qu'a-t-il prêché? Que Dieu vous exhorte et ordonne à tous les hommes de fuir et de se cacher à quelque part pour que Dieu ne les voie plus. Mais non, Dieu ordonne à tous les hommes de... Oui, Claude, il a raison. Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir et de se convertir. Et la parabole du fils prodigue que Jésus a prononcée, on en parlera la prochaine fois si on arrive jusque-là. Elle nous montre à quel point c'est d'une importance vitale et capitale. Et puis quand Jésus dit ensuite, prenez sur vous mon joug, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. C'est quoi le joug et le fardeau de Jésus? Le joug de Jésus, c'est sa parole. Le fardeau de Jésus, pardon, c'est sa parole. C'est un fardeau qu'il veut partager avec nous. Et puis son joug, c'est l'obéissance. Sa parole est aisée. Son fardeau est léger. C'est tellement pénible de lire la Bible. Et comme Claude a dit tout à l'heure, ce matin encore, et c'est très important ce qu'il a dit, il faut non seulement manger, mais il faut aussi digérer. Car c'est quand nous digérons la parole de Dieu qu'elle produit ses effets. Quand nous digérons les aliments qui sont dans notre corps, ils donnent l'énergie à notre corps pour que nous puissions marcher et vivre. Quand nous digérons la parole de Dieu dans notre cœur, elle donne par la puissance du Saint-Esprit l'énergie spirituelle dont nous avons besoin pour obéir. Et c'est ça que Jésus dit, « Mon joug est aisé ». Son obéissance, elle est aisée. Pourquoi? Or, si tu trouves que le joug de Jésus est dur, est lourd, est difficile, comme l'homme qui a reçu un talent et qui a dit, tu es un maître dur et sévère, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu nous demandes des choses impossibles, incroyables à faire, à produire. Ah non, il a mis la mine dans un linge et puis hop, il l'a caché, il a dit, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à cet homme? Méchant serviteur, on prendra ce qu'on t'a donné et on le donnera à celui qui en a un peu plus. Car on enlève à celui qui croit avoir quelque chose et on donne à celui qui a déjà beaucoup. Si tu crois être sauvé, si tu penses avoir passé par la repentance et la conversion, fais comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Le joug de Jésus est aisé, pourquoi? Vous avez déjà vu un joug? Un peintre vaudois, je ne me rappelle plus son nom maintenant, son nom m'échappe, il a fait un tableau avec un paysan et puis deux vaches ou deux bœufs. Pardon? C'est possible, oui, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est possible, je ne sais plus. Pourquoi il y avait les deux vaches et puis le joug? Pourquoi le joug est double? Oui, dis-le fort, Claude. Oui, et qui? Amen. Le joug de Jésus est léger parce que c'est Jésus qui tire avec nous. Il tire le plus lourd. C'est lui qui nous donne la force pour obéir. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions obéir. C'est pour ça que si nous recevons ses instructions, si nous faisons exactement ce qu'il dit dans sa parole, repentez-vous, convertissez-vous et soyez nés de nouveau, alors il produira par la puissance de l'Esprit, car la loi de l'Esprit de vie est plus forte que la loi du péché et de la mort. Et cette loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus nous délivre de la loi du péché et de la mort. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu n'y arriveras pas. Et je termine en disant que ce repos de sabbat, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que l'homme qui est entré, ou la femme, la personne qui est entrée dans ce repos, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous donne mon témoignage très brièvement et je m'arrêterai là. Combien de temps j'ai cherché, et travaillé, et transpiré, et lutté, et douté, et crié au Seigneur. À 19 ans, je voulais me prendre la vie parce que je me dis, je pêche encore. Je ne suis pas chrétien. Et je me suis mis à genoux devant mon lit à 19 ans. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je me prends la vie. Un point, un trait, j'en ai marre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma maman m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Joseph? C'est tout autrement. Elle a vu. Pendant la nuit, tout d'un coup, le Seigneur ne m'a pas parlé, mais cette parole m'est venue à l'esprit, celui qui croit, il a. Puis ça a fait comme un tilt, comme vous savez, quand on va à l'école, puis qu'on nous explique les mathématiques, 3 fois 3, ça fait 9. Ah ah! Je suis bernois et le Seigneur a dû m'expliquer longtemps pour que je comprenne vite, et tout d'un coup j'ai compris. Celui qui croit, il a. Il n'a pas dit, il aura, peut-être, si tout va bien, si je veux, si tu ne fais pas trop le méchant. Non. Celui qui croit, il a. Ah, mais alors je suis sauvé. Mais qu'en est-il de mes péchés? Qu'en est-il encore du fait que je... Eh bien, le Seigneur Jésus, il nous donne d'abord sa justification. Celui qui croit, il a la vie. Il est entré dans le repos. Et une fois qu'on est entré dans ce repos, le Seigneur nous invite à marcher conformément à ce repos, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons et nous les abandonnons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ainsi, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, nous marchons vers la sainteté. Nous marchons dans la sanctification, vers le but que Dieu nous a promis. Et c'est lui qui le fait. Il vous sanctifiera lui-même, corps, âme et esprit. Il le fera car il est fidèle. Mais l'important, je répète encore une fois, et pour une dernière fois aujourd'hui, c'est de passer par la repentance et la conversion. Si quelqu'un n'est pas sûr d'avoir vraiment passé par la repentance, la conviction de péché, la compréhension et l'acceptation du verdict de Dieu sur son cœur, oui, j'ai péché, oui, je mérite l'enfer, oui, je n'ai qu'un seul droit, c'est celui d'aller en enfer. Vous pensez que je suis sévère? C'est pas moi qui le dis. Quelqu'un vient de dire dans un autre texte que j'ai lu, pour les incrédules, le ciel, c'est le paradis. Mais bientôt, ils entreront dans l'enfer. Pour les chrétiens, le ciel, la terre. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pour les incrédules, la terre est un paradis. Et ils entreront bientôt en enfer. Mais pour les croyants, la terre peut être un enfer. Mais ils entreront bientôt dans le paradis, au jour où Jésus fera toute chose nouvelle. Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt? As-tu passé par la vraie repentance? Par une vraie conversion? Portes-tu du fruit? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, et examinez-vous d'après Jean 15, est-ce que je porte du fruit? Est-ce qu'il y a l'amour? L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain? Est-ce que ceux qui sont autour de moi peuvent goûter, peuvent manger de ce fruit? Et Jésus devra dire cette parole terrible, terrible. Si quelqu'un est en moi, si quelqu'un est en moi et ne porte pas de fruit, il sera retranché. Si quelqu'un est en moi et ne porte pas de fruit, on coupe le sarment. On le jette dehors, il sèche, et puis il brûle. Mais si quelqu'un porte du fruit, mon Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions calmement, sereinement, nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi Et si nous le sommes, bénissons le Seigneur. Continuons de marcher dans la paix et dans le repos de Dieu en poursuivant la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et si en nous examinant, nous ne pouvons pas dire « Je suis en paix, je suis dans le repos, je suis sûr que si Jésus revient dans la seconde qui suit, je suis prêt pour aller au ciel. » Alors s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Jésus nous aime, il nous prend là où nous sommes. Partagez, dites-le à votre pasteur, à notre frère Alexandre, et il pourra vous aider, ou bien aux anciens, ou à une personne en qui vous pouvez avoir vraiment confiance. Que Dieu nous bénisse tous et que le Seigneur Jésus nous aide à vivre dans ce repos. Amen.